Chers amis, aujourd'hui je vous parlerai d'une histoire de rencontre, de confrontation, une histoire comme je les aime lorsque je me plonge dans les récits rapportés dans la Bible. Le texte que je développerai est dans les évangiles, l'évangile de Luc, au chapitre 7, les versets 36 à 50. Denis, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire ce passage. Luc 7, 36 à 50.
Ok. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle apporta un vase plein de parfums et s'éteint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il s'est dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, « j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel de deux l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser le pied. Tu ne m'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne, peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Parole du Seigneur.
Amen.
Amen. Amen.
Ce texte met donc en scène Jésus et deux de ses contemporains. L'un, l'hôte, celui qui reçoit Jésus, fait partie des autorités religieuses, des élites bien en vue dans la société de l'époque. Il était pharisien. L'autre s'est invité, une femme, s'est invité et a imposé sa présence à l'hôte parce qu'elle avait appris que Jésus, dont elle espérait, dont elle attendait, qu'il lui fasse du bien, que Jésus est présent. Cette femme est présentée comme une femme pécheresse à la vie dissolue, déconsidérée par le pharisien Simon, parce qu'elle ne correspondait pas aux standards spirituels de l'époque. Alors j'aime particulièrement ce genre de récit dans la mesure où Jésus réussit à faire interagir deux personnes socialement, culturellement et spirituellement séparées par un gouffre. Deux personnes que tout sépare, aux antipodes l'une de l'autre. Je suis en effet fasciné par la capacité de Jésus à entrer en relation avec des personnes aussi différentes que ce pharisien et cette femme pécheresse. Il confronte d'un côté un homme aux certitudes spirituelles inébranlables, issues de l'enseignement de Moïse. Un homme plutôt suspicieux à l'égard de Jésus et de sa réputation de mangeur et de buveur, ami des publicains et des gens de mauvaise vie. C'est le verset 34 qui précède notre récit. Et ça, c'est dans la version second. Et je vais aussi vous lire la version Summer. Donc, Jésus est présenté comme faisant bonne chair. Et donc, il était de ceux qui buvaient du vin, amis des collecteurs d'impôts et des pêcheurs notoires. De l'autre, il y a cette femme pécheresse, alors à la vie dissolue, la Bible Summer, la Bible d'études la présente, alors ce n'est pas dit, hein, mais sans doute, il est possible que c'était une prostituée. Et voilà, cette femme, elle s'attend de tout son être au pardon de ses péchés, de ses nombreux péchés, nous est-il dit. Et se tient au pied de Jésus. Elle s'impose, elle impose sa présence parce qu'elle n'était pas, la bienvenue. Elle se tient au pied de Jésus, loignant d'un parfum d'un grand prix. Elle reconnaît en Jésus le Messie et fait appel à sa bonté salvatrice. Ce récit montre, encore une fois, que ce ne sont pas nécessairement ce que l'on aurait imaginé qui comprennent le mieux l'identité messianique de Jésus. Entre un pharisien rompu aux questions théologiques, dont la recherche de pureté est le credo, et une femme au lourd passé marqué par le péché, la dissolution de vie, c'est cette dernière qui reconnaît en Jésus son sauveur. Là où le pharisien, aveuglé par ses préjugés, les préjugés des religieux de son époque, ne peut que donner raison aux détracteurs de Jésus qui lui adresse des reproches. Des reproches à son encontre, des reproches qui consistent à ne pas voir en lui Dieu incarné, ce Messie qui devait venir. La femme à la vie dissolue comprend mieux l'amour de Dieu, mieux que le pharisien, en quête de pureté. C'est étonnant, n'est-ce pas? Elle sait qu'elle a une grosse ardoise auprès de Dieu. Elle sait qu'elle a beaucoup à se faire pardonner et qu'elle ne pourra jamais, par ses propres moyens, rembourser cette ardoise, tellement ses péchés sont nombreux. Le pharisien, dont la vie est selon lui conforme à ce que Dieu attend de lui, n'a quant à lui pas grand-chose à se faire pardonner. Il se sent quitte par rapport à son Dieu. Et donc, je développerai deux parties en m'appuyant sur deux affirmations de Jésus. La première, celui à qui est, donc c'est dans le texte que Denis a lu, celui à qui on pardonne peu aime peu, et celui à qui ses nombreux péchés sont pardonnés, aime beaucoup. Et donc, ça donne une première partie, la propre justice ne génère que peu d'amour. Une deuxième partie, le pardon génère beaucoup d'amour. Et le titre que je donnerai à ce message est le suivant, l'amour, fruit du pardon, l'amour, fruit du pardon. Premièrement, la propre justice éteint l'amour, le rend inopérant. Celui qui aime, à qui on pardonne, pardon, peu, aime peu. Verset 47b. Simon, en tant que pharisien, s'astreignait quotidiennement à une stricte observance de la loi juive. Il respectait ainsi le sabbat, priait tous les jours, plusieurs fois, trois fois en principe, au minimum, jeûnait deux fois par semaine, donnait la dîme de tous ses revenus, etc. Il fuyait l'impureté comme la peste et appliquait à la lettre toutes les règles pour rester pur. Pour bien comprendre le pharisianisme, nous pouvons lire en Luc 18, verset 11. Luc 18, verset 11. C'est une parabole que Jésus raconte. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultère, ou même comme ce publicain qui était au fond. Cet homme est visiblement, ce pharisien, est visiblement satisfait de ce qu'il est. Il n'a rien à se reprocher, ni rien à se faire pardonner. Comme Simon, qui se considère comme étant supérieur à la femme pécheresse, il est arrivé, à force d'abnégation et de discipline, alors ce n'est pas une chose mauvaise en soi, mais c'est les conséquences que cela peut prendre dans sa vie, dans sa propre vie par rapport à l'orgueil. Donc à force d'abnégation et de discipline personnelle, à un niveau spirituel, tel qu'il peut se comparer au publicain, donc collecteur d'impôts, et considérer, estimer qu'il est de loin meilleur que ce publicain. Alors certes, il rend grâce à Dieu, mais uniquement pour ce qu'il est lui, pour ce qu'il est devenu, grâce à sa pratique religieuse stricte, et non pour ce que Dieu a fait pour lui, pour le pardon des fautes commises. Il n'a plus besoin de son Seigneur. Sa propre justice est devenue son Dieu, avec un petit dé. Il a oublié le vrai Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Son Dieu, c'est désormais le niveau, son niveau de spiritualité, en lien avec sa seule pratique religieuse et ses œuvres. Niveau qu'il a atteint et auquel il sacrifie, comme à une idole, quotidiennement. Aime-t-il son Dieu comme David le dit au psaume 18, verset 2 ? Je t'aime, ô Éternel, ma force. Ce cri-là, ce cri d'amour. Non, non. Il n'y a rien de tel dans le message que le pharisien, dans ce passage dans Luc 18, adresse à Dieu. Est-il reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour lui? Non. Dans le texte qui nous occupe aujourd'hui, Jésus énonce à Simon une parabole. La parabole du créancier et des deux débiteurs, versets 41 et 42. Simon comprend bien que le débiteur qui doit le plus, parce que Jésus lui pose la question, et qui voit sa dette remise en totalité, sera très reconnaissant, plus reconnaissant envers le créancier et l'aimera davantage que le débiteur à qui est remis une dette moindre. Il doit tout au créancier et est bien conscient que sans la mansuétude de ce dernier, il serait perdu et aurait fini ses jours en prison. Parce que c'est en prison qu'atterrissaient les débiteurs qui ne pouvaient pas rembourser leurs dettes. Mes amis, vous avez bien compris que la remise de dette, dans cette parabole, symbolise le pardon des péchés. Et le créancier, c'est de Dieu qu'il s'agit. La suffisance de Simon, sa propre justice, sont autant d'éléments qui l'amènent à considérer que sa dette n'est pas abyssale. C'est une petite dette. Les gens du Nord disent une ch'ti dette. Et qu'il a de quoi rembourser par ses propres moyens en menant une vie spirituellement correcte. Cette attitude a pour conséquence une dégradation de sa relation personnelle avec son Dieu. Mais à ce stade de l'intervention de Jésus qui confronte le pharisien et la femme, le premier, Simon, semble bien éprouver des difficultés à comprendre l'identité divine de Jésus et préfère, à l'instar de ses co-religionnaires, retenir à l'encontre de Jésus sa mauvaise réputation de faiseur de bonne chère et d'ami des pécheurs. Et il en veut pour preuve le fait que Jésus se soit laissé toucher par cette femme pécheresse, donc impure. Et dans son cœur, il dit, si cet homme était un prophète, il lui dirait de s'en aller. Voilà la compréhension qu'il avait de la grâce de Dieu. En tant que croyant, nous avons tendance à jeter la pierre un peu facilement à ce pharisien. Simon. Parce que les pharisiens, oui, et le texte nous le montre, restent insensibles au message de Jésus. Et n'ont pas voulu reconnaître, ne veulent pas reconnaître en lui l'incarnation de Dieu. Mais en y regardant de plus près, nous pouvons, en tant que chrétiens, être gagnés aussi. C'est un risque. Si on y prête attention, si on ne reste vigilant, être gagné par le pharisianisme, au sens de notre marche spirituelle. Nos progrès constants, et nous nous réjouissons des progrès, et Dieu se réjouit aussi des progrès. Nos victoires, c'est là aussi une occasion de se réjouir. Et Dieu se réjouit lorsque nous sommes victorieux par rapport à nos travers pécheurs. Eh bien, si on y prête attention, ces progrès, ces victoires peuvent nous, comment dire, atténuer notre premier amour et nous amener à considérer que nous sommes des petits graciés. Si Bien évidemment, nous nous attribuons à nos efforts, uniquement à nos efforts, nous devons en faire, la Bible nous demande d'en faire, mais uniquement à nos efforts, uniquement à nos pratiques, uniquement à notre discipline personnelle, ses victoires et ses progrès, eh bien, nous pouvons facilement tomber dans le travers des petits graciers à qui aiment peu parce que, eh bien, ils ont peu à se faire pardonner. Cela se produit, effectivement, lorsque petit à petit, nous mettons le curseur sur nous-mêmes et ne regardons plus ou peu à Jésus. Et nous ne regardons plus à lui avec les yeux, hein, en étant reconnaissants, avec des cœurs remplis d'amour pour lui. Ce premier amour des graciers que nous avons connu au moment de notre conversion. Les yeux de la femme pécheresse étaient ces yeux-là. Elle voyait son Seigneur avec des yeux remplis d'amour. Oh, puissions-nous ne pas être pris en, comment dire, flagrant délit d'aimer peu parce que nous avons peu à peu édulcoré le sens de la grâce. Deuxièmement, le pardon génère beaucoup d'amour. Le verset 47 nous dit « Ses nombreux péchés ont été pardonnés, double point, c'est en lien, car elle a beaucoup aimé. » Cette femme pécheresse, au passé lourd, je vous le rappelle, menant une vie dissolue, rejetée par la société de l'époque, bien pensante, dont les religieux, dont Simon, chez qui elle n'était pas la bienvenue, tenait absolument, absolument, c'était vital pour elle, à rencontrer celui qui prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, Jésus. Elle était prête à tout, absolument tout, pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Rencontrer Jésus qui guérissait les malades, chassait les démons et pardonnait les péchés. Même s'il fallait pour cela, et elle l'a fait, forcer la porte de ceux qui la méprisaient. Elle et tous ses semblables. Pour cela, elle ne part pas les mains vides. Elle emmène avec elle un vase contenant un parfum très cher, l'équivalent aujourd'hui, les dames comprendront, comprendront ce parallèle. L'équivalent aujourd'hui de nos parfums de luxe, produits essentiellement en France d'ailleurs, par des marques prestigieuses. Et ces parfums sont hors de prix. Pour Jésus, rien n'est trop précieux. Au verset 38, il est dit qu'elle pleurait. Et bientôt, elle mouilla, je lis le verset, elle mouilla les pieds de Jésus de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Ce qui me frappe, mes amis, c'est le dépouillement de cette femme. Elle n'est là que pour son Seigneur. Elle ne s'est pas demandé si elle allait paraître ridicule. Tout ce qu'elle attendait, c'est que Jésus fasse quelque chose pour elle. Elle est humble. Elle se fait toute petite. Elle se range. Elle se met au niveau des pieds, considérés à l'époque comme des organes plus vils parce qu'ils étaient en contact avec la poussière, avec ce qui était sale, etc. D'ailleurs, Jésus rappelle à Simon que lui ne l'a pas accueilli en lavant ses pieds, mais elle le fait avec de ses larmes. Oui, elle est convaincue de péché, totalement sincère. Son attitude authentique tranche, mais vraiment, tranche avec la suffisance propre juste de Simon. Le parfum répandu, sans doute sa seule fortune, est pour Jésus. Le publicain dans Luc 18, on revient à Luc 18 au verset 13, il est au fond de la synagogue et il se frappait, nous dit le verset 13, la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur !» Le cri du cœur « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton pardon !» Ce publicain est bien dans la même attitude, dans le même état d'esprit que la femme de notre récit d'aujourd'hui. Une attitude qui consiste à s'attendre à une grande remise de dette. J'ai besoin que tu me remettes ma dette. Je ne m'en sortirai pas, sinon je serai toujours débiteur, je serai toujours cette dette me dominera toujours. Jésus est touché par la sincérité et le dépouillement de cette femme. Son amour pour lui, indéfectible, sans faille, l'a ému. Étrange avec les pensées pleines de reproches à son égard formulées par Simon. Alors Jésus, il avait le pouvoir de lire dans les pensées. Et donc ces pensées nous sont rapportés. Mais l'attitude qu'il devait avoir à l'égard de cette femme, sa retenue, sa distance, révélait le contenu de ses pensées. Jésus, quant à lui, pardonne les péchés de cette femme. Car elle a beaucoup aimé, verset 47. Et lui dit au verset 50, ta foi t'a sauvé, va en paix. Oui, mes amis, elle, cette femme, aimait et se savait aimée. Ce savoir aimer et pardonner produit en nous l'amour, la reconnaissance, un lien fort avec la personne qui nous pardonne, qui nous aime. Cet amour est celui que Dieu déverse en nous pardonnant nos fautes. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il, c'est Jésus. 1 Jean 3, verset 16. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, nous dit aussi Jean dans sa première épître au chapitre 4 et verset 8. Cette femme a aimé et ne s'est pas arrêté aux préjugés de ses contemporains. Elle a cru que Jésus était bien Dieu incarné, le Messie qui devait venir. Et sa foi l'a sauvé, lui a permis que Jésus lui remette sa dette. Au contraire de Simon, dont l'incrédulité est grande, puisqu'il s'est interrogé au verset 49. Et tous ceux qui étaient présents avec Simon se sont interrogés au verset 49. Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Voulant dire pour qui il se prend, comment peut-il pardonner les péchés? Lui, un homme. Ils n'ont pas reconnu sa nature divine. Mes amis, puissions-nous ne pas nous laisser gagner par à l'enjeu? C'est un mot qui n'est pas, enfin, voilà, qui reprend cette image que j'ai donnée. Ne nous laissons pas gagner par le tiédissement de notre premier amour. Que cet amour reste brûlant, de peur que le Seigneur nous vomisse de sa bouche. Et ne permettons pas que la peur du châtiment, la peur de la condamnation, tout ce que le diable voudrait nous faire croire, cette peur du châtiment est une forme d'incrédulité, et bien que nous ne puissions pas nous laisser gagner par cela. Le marteau du châtiment est déjà tombé, mes amis, il y a 2000 ans. Il s'est abattu sur le Christ, crucifié sur la croix, pendu au bois, pour prix du pardon éternel des péchés de l'humanité tout entière. C'est là la bonne nouvelle de l'Évangile pour nos vies. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, comme le croyait Simon. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Puisse le Seigneur renouveler notre premier amour pour que nous marchions comme des débiteurs conscients qu'une très grosse dette a été remise par notre Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que nous serons gardés et renouvelés dans notre foi, dans notre marche spirituelle, et que nous serons gardés et maintenus en paix, comme le message que Jésus a adressé à la femme: ta foi t'a sauvé, va en paix. Nous n'avons plus à nous inquiéter pour notre salut. C'est Christ sur la croix, en se sacrifiant, qui a payé la dette pour nous et qui a pris sur lui la condamnation. En conclusion, nous avons vu que c'est l'amour, que l'amour, pardon, est le fruit du pardon. Si nous perdons de vue la réalité de la grâce, nous ferons fausse route et nous tomberons inévitablement dans les pièges du légalisme et des œuvres. Qui ne sauve pas. Voilà, mes amis, ce que je voulais partager avec vous et vous encourager à garder, renouveler quotidiennement dans nos relations avec le Seigneur cet amour, ce premier amour, de raviver sans arrêt ce feu pour qu'il continue à brûler en nous et qu'il puisse servir de témoignage au dehors. Que les autres voient que nous avons un grand Seigneur et un grand Sauveur, Jésus-Christ. Amen.
Amen. Prenons une minute de silence pour nous remémorer tout ce qu'on a entendu. Et je vais demander à Oli, si tu es présente, de prier pour nous, pour que nous ayons les bonnes attitudes de pardon. Donc, prenons un moment de silence, une minute, et après, Oli, si tu veux bien prier.